Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalot, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalot enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdie. Par cette rediffusion, Radio Lapourdie rend hommage au Père Joseph Sabalot, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalot, 5e épisode, Rome face aux barbares.
Rome. Rome face aux barbares. Ces mots, Rome face aux barbares, imposent à notre esprit une image, celle que traçait si éloquemment Raphaël Sanzio dans une fresque fameuse, Saint Léon arrêtant Attila. Le fait est historique. Cela s'est passé en août 452 sur le Mincio, une rivière de l'Italie centrale. Attila descend sur Rome avec ses Huns. Ils arrivent du fond de l'Asie. De tous les barbares, ce sont les plus terribles. Un historien du temps, Ammien Marcellin, écrit qu'ils dépassent en férocité tout ce qui peut s'imaginer. Avec leurs corps trapus aux membres supérieurs énormes, leur tête démesurément grosse, leurs joues balafrées de cicatrices qu'ils se font eux-mêmes pour empêcher la barbe de pousser, sont-ils des bêtes ou des hommes? La légende court qu'ils sont nés de l'accouplement monstrueux de sorcières et de démons. C'est à cheval qu'ils passent leur vie, tiennent leurs assemblées, boivent et mangent, dorment même, inclinés sur le cou de leur monture. Leurs femmes et leurs enfants vivent dans les chariots qui accompagnent la horde dans ses courses. Ils ne font pas cuire leurs aliments, ils mangent de la viande crue qu'ils échauffent sous leur selle. Quel sort, plus atroce que celui que leur réservait Alaric 40 ans plus tôt, attend la malheureuse Rome. Or, voici qu'au-devant des sauvages s'avance un étrange cortège. Des prêtres en dalmatique, des moines vêtus de bures, deux patrices à cheval, une foule de diacres et de chantres portant des croix et des bannières, soulevant des ostensoirs dont l'or étincelait au soleil. Et de toute cette colonne, montée dans un chœur formidable, les répands rythmés des hymnes et des psaumes. Au milieu de tout cela, un vieillard, à barbe blanche, chevauchait en priant. Le Hun galopa vers le fleuve, il lança son cheval, s'arrêta sur une île de sable à portée de voix. « Quel est ton nom ?» cria Attila au vieillard. « Léon, pape. » Attila hésita un instant, puis, jetant de rechef son cheval à l'eau, aborda sur l'autre rive. Et le pape vint au-devant de lui. Ils se parlèrent longuement. Puis le barbare repassa la rivière, et lui et les siens refluèrent vers le nord, puis vers l'est. Du pillage, du viol, de l'esclavage, de l'hécatombe, Rome était sauvée. Et le prestige de l'évêque de Rome, du pape Defensor Civitatis, montait. Montait au firmament de l'histoire. Nous retrouverons le pape Léon Ier. Pour l'instant, sans doute est-il préférable que nous prenions les choses par le commencement. Paul et Pierre à Rome. Nous ne savons pas quels ont été les tout premiers évangélisateurs de la capitale de l'Empire. En fait, quand Saint Paul, prisonnier, y arrive pour une première captivité qui durera au moins 2 ans, des frères sont allés au-devant de lui, des chrétiens qui font sa rencontre au forum d'Appius et aux trois tavernes, ainsi qu'on peut lire dans le texte des Actes en 28:15. En les voyant, lit-on encore, Paul rendit grâces à Dieu et reprit courage. La suite et la fin sont hypothétiques. La suite, c'est-à-dire son deuxième séjour à Rome, son arrestation, son procès, sa prison à la Mamertine, sa décapitation en 67, c'est la date que donne Eusèbe de Césarée, en dehors de la ville, au Marais Salvien, là où se trouve aujourd'hui la trappe des Trois Fontaines. Son inhumation dans le pré de la matrone Lucina, là où on construisit au IVe siècle la basilique majeure qui lui est dédiée. La translation de son cadavre dans la catacombe de Saint-Sébastien pendant la persécution de Valérien. Et enfin, le dépôt définitif de ses restes sous Constantin par les soins du pape Sylvestre en 29 juin dans la basilique de Saint-Paul hors les murs. Les témoignages les plus sérieux que nous ayons de tout cela demeurent les graffitis qu'on peut voir dans les catacombes de Saint-Sébastien. Elles datent du IIIe siècle et ont été portées sur ce qu'on tenait avec certitude pour les tombes des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. L'écriture qui voit Pierre à tel ou tel endroit extérieur à la Palestine, à Antioche, à Corinthe, ne fait aucune mention de son séjour et de son martyre à Rome. Si bien que certains parmi les protestants y voient de pures et simples inventions. De fait, le récit de sa crucifixion à la tête en bas peut être considéré comme légendaire. On le trouve dans les actes apocryphes de Pierre, écrits anonymes du IIe siècle, où aborde le merveilleux. Qu'il ait fondé avec Paul l'Église de Rome, cela est attesté de façon nette à partir de la fin du second siècle, d'abord par saint Irénée et Denis de Corinthe, ou encore par le prêtre Caius, qui, à Rome, dans sa polémique avec les sectateurs de Montan, leur écrit « Je peux vous montrer les monuments des apôtres, que vous veniez au Vatican ou sur la voie d'Ostie, vous aurez sous les yeux les monuments des fondateurs de notre Église. » Les fouilles faites récemment sur la basilique du Vatican montrent qu'elle a été construite au-dessus d'une nécropole. Pour autant, on n'a pas identifié les restes de Saint-Pierre, ni même avec certitude, son tombeau primitif. En somme, nous n'avons pas de preuve péremptoire que le prince des apôtres a fondé l'église de Rome, ni à plus forte raison qu'il en a été le premier évêque. L'histoire se borne à donner comme hautement probable le martyre de Pierre à Rome sous Néron. La tradition en fait foi à partir du second siècle. Les martyrs de Néron. L'Église de Rome jouit très vite d'un prestige considérable. Parce qu'elle est celle de la capitale de l'Empire, tout simplement, et puis parce qu'elle reçoit ses lettres de noblesse, non seulement de Pierre et de Paul, mais de la première vague de martyrs que subissent les chrétiens. Comment Néron, accusé par une insistante rumeur publique d'avoir mis le feu à Rome pour jouir du spectacle d'un immense embrasement, détourna ce soupçon sur les chrétiens, nous le savons par des témoignages aussi considérables que celui de Tacite, le plus illustre des historiens latins. Il faut lire ce chapitre 44 du 15e livre des Annales. « Aucun moyen humain, écrit Tacite, ni largesses impériales, ni cérémonies expiatoires, ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie de Rome. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Réprimé un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamies et d'horreurs afflue et trouve des partisans. On fit de leur supplice un divertissement. Les uns couverts de peaux de bêtes périssaient dévorés par des chiens. D'autres mouraient sur des croix. Ou bien ils étaient enduits de matières inflammables, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en guise de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle, et donnait en même temps des jeux au cirque, où tantôt il se mêlait au peuple en habit de cocher, et tantôt conduisait en char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables, et eussent mérité les dernières rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion, en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés. On voit par ce texte, d'une part, le discrédit qui pesait sur les chrétiens, accusés d'être des athées et des ennemis du genre humain, inimici generis humani, parce qu'ils ne se conformaient pas aux usages en vigueur dans la cité. Au fil des générations, deux siècles durant, sinon davantage, on les accusera des pires noirceurs, d'adorer un âne, ou d'inceste, ou de manger des enfants. D'autre part, nous voyons dans ce texte l'atroce cruauté des tourments qu'ils subissent. Ils servent de torches vivantes pour éclairer les orgies de Néron et de ses courtisans. Ou encore, ils sont forcés de jouer pour l'amusement des Romains. Suétone et Clément de Rome nous le rapportent. Des scènes affreusement cruelles de la mythologie grecque. Hercule dans les flammes, Ixion déchiré sur la roue, Orphée déchiqueté par les ours, Attis mutilé, Pasiphae livré en débauché, peut-être Néron en personne, caché sous le masque d'un taureau sauvage, Dircé attaché nu sur un taureau et traîné sur les rochers de l'Hélicon. La persécution s'apaise après la mort de Néron sous Vespasien et Titus, mais elle reprend en 95 avec Domitien, et elle compte alors parmi les victimes des membres de la famille impériale, comme Flavia Domitilla, et des personnages consulaires, comme Flavius Clemens et Acilius Glabrio, ce qui témoigne de l'extension remarquable et surprenante dans des conditions aussi difficiles de la foi en Christ dans la capitale de l'Empire. Clément de Rome et l'Épître aux Corinthiens. De cette même époque, celle où meurt Domitien en 96, date un texte qui donne aux arrêtés parce qu'il émane de l'Église de Rome et qu'il compte parmi les plus importants de la période apostolique. L'Épître attribué à Clément de Rome et adressé aux Corinthiens. C'est une longue exhortation morale, nourrie d'une multitude de références et d'exemples, pour la plupart empruntés à la Sainte Écriture, achevée par une très belle prière, exhortation dont l'intention est de mettre fin à un désordre qui perturbe gravement la vie de la communauté chrétienne de Corinthe. Un parti de jeunes prétend remplacer le collège des presbytres qui la gouverne. Le ton, très ferme, est celui d'une objurgation et d'une adjuration. C'est une honte, bien-aimé, une honte par trop grande. C'est indigne d'une conduite soumise au Christ qu'on raconte que l'Église de Corinthe s'est révoltée contre ses presbytres à cause d'un ou deux individus. Et le bruit n'en est pas venu seulement jusqu'à nous, mais aussi jusqu'à ceux qui ne partagent pas notre foi, de sorte que votre folie fait blasphémer le nom du Seigneur et qu'elle vous met vous-même en danger. Vous donc qui avez jeté les fondements de la discorde, soumettez-vous au presbytre et laissez-vous corriger en esprit de repentance en fléchissant les genoux de votre cœur. Apprenez la soumission en déposant votre superbe et orgueilleuse arrogance de langage. Il est meilleur pour vous, en effet, d'être trouvé dans la petitesse parmi les élus du troupeau du Christ que de recevoir des honneurs indus et d'être rejeté de son espérance. Cette lettre est adressée, ce sont les premiers mots du texte, par l'Église de Dieu qui séjourne à Rome, à l'Église de Dieu qui séjourne à Corinthe. On n'y trouve nulle part le nom de Clément. Elle lui est attribuée à lui, Clément, évêque de Rome, par Denis de Corinthe, Irénée et Hégésippe à la fin du IIe siècle, et plus tard par Origène, Jérôme, Clément d'Alexandrie. Pour certains, Tertullien par exemple, Clément est le premier successeur de Saint-Pierre. D'autres, comme Irénée et Eusèbe de Césarée, intercalent l'un et Anaclet entre Pierre et Clément, et c'est ce que fait aussi le canon de la messe. Quant à son exil et son martyre, il est précipité dans la mer avec une ancre au cou, et ses disciples recueillent son cadavre grâce à un chemin qui s'effrayait miraculeusement au milieu des flots, on n'en trouve aucun témoignage avant le martyrologe hiéronymien qui date du 5e siècle. Rome au 2e, 3e et 4e siècle. De la Rome chrétienne du 2e siècle, nous connaissons une martyre illustre, Sainte Cécile. Et un apologiste dont l'œuvre présente un grand intérêt, Saint Justin. Mais des évêques, à supposer qu'il y en ait eu au sens où nous les entendons aujourd'hui, nous ne savons rien. Saint Irénée, qui à la fin de ce siècle a insisté le premier sur la succession apostolique, dresse pourtant la liste des évêques de Rome, Évariste, Alexandre, Sixte, Télesphore, Hygin, Pie, Anicée, Sober, Éleuthère, tous, ou à peu près, ont des noms grecs. C'est à partir de 189, avec Victor, Zéphirin, Calixte, qu'on voit l'évêque de Rome jouer un rôle. Rôle effacé, un Zéphirin est un homme intellectuellement médiocre, le passé de Calixte est douteux, Marcellin ne brille pas par son courage, et déjà nous voyons un antipape. L'histoire en connaîtra beaucoup d'autres, une bonne cinquantaine. Martyr et saint par surcroît, celui-là, Hippolyte. 30 années plus tard, après la dure persécution d'Odèse, nouveau schisme, Novatien reprend contre Corneille, l'élu de la majorité, les positions dures d'Hippolyte, les lapsis, c'est-à-dire les faillis, les renégats, doivent être exclus sans rémission de l'Église et non pas admis à la pénitence comme pensent Corneille et son parti. La dispute aura des conséquences jusqu'au 5e siècle où persistera encore le rigorisme des sectateurs de Donat. Les papes, ainsi désigne-t-on les évêques de Rome à partir du 4e siècle, le mot « papas » en grec signifie « père », ces papes, Marcel, Eusèbe, Miltiade, Sylvestre, Marc, du IVe siècle, ne sont pas plus brillants que leurs prédécesseurs. Libère, même, prisonnier de Constance, admet au moment les thèses d'Arius. Seul Damas, au demeurant accablé par toutes sortes de difficultés, il est par exemple contesté par l'antipape Ursin, présente plus d'envergure. Il n'empêche que l'autorité morale de l'évêque de Rome s'affirme de plus en plus nettement. il se proclame lui-même successeur de Saint-Pierre, ainsi Saint-Damase, qui fut pape de 366 à 384. La Sainte Église romaine, dit-il, est élevée au-dessus de toutes les autres, non point par des constitutions synodales, mais par la parole de notre Seigneur quand il a dit « Tu es Petrus et superant Petram edificabo ecclesiam meam », ce qui appelle la formule de saint Ambroise « Ubi Petrus, ibi ecclesia », là où est Pierre, là se trouve l'Église. Et on pourra lire chez saint Léon « Les apôtres ont élevé Rome à une gloire telle qu'elle est devenue la tête du monde » grâce au siège sacré du bienheureux Pierre, et qu'elle domine maintenant par la religion divine, plus largement qu'autrefois par la puissance terrestre. Le 27 février 380, l'empereur Théodose adresse de Thessalonique un édit au peuple de Constantinople, où l'on peut lire « Nous voulons que tous les peuples vivent dans la religion que le divin apôtre Pierre a transmise aux Romains, religion que suit manifestement le pontife Damase. » Les conciles de Nicée, en 325, de Sardique, en 343, lui accordent le premier rang, comme au patriarche d'Alexandrie le second et à celui d'Antioche le troisième. Un peu plus tard, Théodose mettra Constantinople au second rang. Il reçoit le pape de Rome des dotations considérables, en particulier de la part des empereurs. Voltaire en parle convenablement au dixième chapitre de l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Constantin, écrit Voltaire, donna non au seul évêque de Rome, mais à la cathédrale, qui était l'église de Saint-Jean, 1000 marques d'or et 30 000 d'argent, avec 14 000 sous de rente et des terres dans la Calabre. Chaque empereur, ensuite, augmenta ce patrimoine. Les évêques de Rome en avaient besoin. Les missions qu'ils envoyèrent bientôt dans l'Europe païenne, les évêques chassés de leur siège auxquels ils donnèrent un asile, les pauvres qu'ils nourrirent les mettaient dans la nécessité d'être très riches. Le crédit de prestige de la place, supérieur aux richesses, fit bientôt du pasteur des chrétiens de Rome l'homme le plus considérable de l'Occident. Vers 600, d'après l'historien Pierre Richer, le patrimoine de l'Église romaine était évalué à 500 000 hectares, ce qui serait l'équivalent d'un quadrilatère de 70 km de côté. N'allons tout de même pas croire que le pape du IVe siècle gouverne l'Église comme celui d'aujourd'hui. L'Orient et la Grèce échappent à peu près complètement à son influence. On le tient pour le patriarche de l'Occident, le métropolitain de l'Italie, territoire où il contrôle les nominations épiscopales. Au milieu des incessantes et farouches querelles théologiques, on lui reconnaît une certaine autorité doctrinale. Mais il serait parfaitement anachronique de parler d'une reconnaissance de son infaillibilité. En fait, c'est partout dans le monde chrétien que face à la diversité des positions dogmatiques, évêques, métropolitains et patriarches s'interrogent, se consultent, au besoin se corrigent les uns les autres, dans un but on ne peut plus louable de vérité et d'unité, d'unité dans la vérité. Léon le Grand. Le premier grand pape de l'histoire, peut-être le plus grand, le plus incontestable, c'est Léon Ier, saint Léon. Nous l'avons vu en face d'Attila, connaissons-le davantage. Léon est un Toscan d'origine, membre prestigieux du clergé romain. On est assez confondu de voir que dès 431, c'est l'année du concile d'Éphèse, alors qu'il n'est que diacre et âgé d'à peine 30 ans, c'est à lui que Cyril d'Alexandrie s'adresse, négligeant le pape Célestin Ier, pour mettre Rome en garde contre des menées hérétiques qui se développent en Orient. Il est en mission en Gaule pour réconcilier le gouverneur Albinus et le magister militum, le généralissime, Aesius, quand on lui annonce son élection au siège apostolique. Ce sont des années terribles. Ce cinquième siècle, le grand siècle des invasions barbares, est proprement épouvantable. L'Occident est ravagé par les grandes invasions germaniques et par régions entières, l'Empire tombe entre les mains des envahisseurs. En 410, le roi des Visigoths, Alaric, se rend maître de Rome, pille la ville et en massacre les habitants. Un immense désarroi s'empare de tout l'Empire. « Ma voix s'éteint, pleure Saint Jérôme. Les sanglots étouffent mes paroles. Elle est prise, la ville qui avait pris le monde. Elle périt par la faim autant que par le glaive. Elle flambe, l'illustre tête de l'Empire. J'ai voulu me mettre à l'étude d'Ézéchiel, mais au moment d'entreprendre à dicter, j'ai pensé à la catastrophe d'Occident et j'ai dû garder le silence, sentant bien que le temps des larmes était venu. » Des récits terrifiants d'incendies de villes, de pillages et de massacres parviennent de Gaule, d'Espagne ou d'Afrique. Les routes sont parcourues par des cortèges pitoyables de réfugiés fuyant l'envahisseur. En 439, Carthage tombe. L'Afrique se trouve en possession des Vandales, ce qui compromet gravement le ravitaillement de Rome assuré traditionnellement par cette région. En 452, les Huns, nous l'avons vu, menacent Rome et, contre toute attente, s'éloignent de la ville sur l'intervention de l'évêque Léon, sans doute après versement d'une rançon. Trois années plus tard, avec Jean Séric, le roi des Vandales, qui a débarqué à Ostie avec une flotte de guerre, Léon est moins heureux. Il obtient des Vandales qu'il ne tue ni ne brûle, mais ne peut l'empêcher de piller systématiquement la ville et d'emmener à l'Afrique des milliers de captifs. En cette même année 455, le dernier empereur de la dynastie de Théodose le Grand, cet empereur qui régnait avec puissance un demi-siècle à peine plus tôt, Valentinien III, avait été assassiné. Pendant une vingtaine d'années, 10 empereurs éphémères allaient se succéder, qui n'étaient que des fantoches entre les mains des chefs barbares. L'un d'entre eux, Glycérius, une fois déposé, fut évêque de Salone, l'actuel Split en Croatie. Et tout cela aboutit à l'abolition pure et simple de l'Empire d'Occident en 476 sur la décision d'Odoacre, du roi des Ostrogoths, Odoacre. Le dernier empereur, Romulus Augustulus, ne fut pas remplacé. Dans ces conditions, le pape constituait un recours, un protecteur de la population civile. Une terrible famine ravageait l'Italie en ce milieu du Ve siècle. Léon organisa des secours, fit des collectes de vivres et les distribua à la population de Rome. On admire que, au milieu de tant de tourmentes, gardant une sérénité et un équilibre extraordinaire, Léon ait pu faire œuvre doctrinale. Sans doute ne trouva-t-il pas le temps de composer des traités de théologie, mais ses sermons sont parmi les plus beaux qu'on ait prononcés. Il parlait d'une manière à la fois simple et noble, enthousiaste et paisible. Il reste le docteur du mystère de l'incarnation, parce qu'il contribua puissamment à réduire le monophysisme. Pour Eutychès, l'humanité en Christ était absorbée, noyée par la divinité. Et parce que nul n'a traité mieux que Léon le Grand ce sujet fondamental pour notre foi. Rome avant et après Grégoire le Grand. Sans être des personnages quelconques, les successeurs de Léon le Grand ont laissé moins de traces dans l'histoire. Félix III et Gélas entretiennent un dur conflit avec Constantinople, qu'ils considèrent comme gagné au monophysisme. La rupture dura 34 ans. Symmaque, leur successeur, subit la rivalité de l'antipape Laurent. On voit alors dans Rome, divisé entre deux camps, l'un des compétiteurs occupait Saint-Pierre du Vatican et l'autre Saint-Paul hors les murs. Le Liber Pontificalis parle de prêtres et de clercs massacrés, de saintes femmes et de vierges consacrées à Dieu, chassées de leur maison et de leur monastère, dépouillées de leurs vêtements, horriblement brûlées. Sous les pontificats d'Hormisdas, de Jean Ier, d'Agapé, les empereurs Justin et Justinien rétablissent la communion avec Rome. Mais on voit Bélisaire déposer le pape Silvère en 537. Son successeur Vigile, qui mourut en 555, est fort maltraité par Justinien au cours d'une interminable et farouche querelle théologique sur les trois chapitres. Les thèses des origénistes Théodore de Mopsuète, Théodoré de Cyr et Ibas. Longue querelle qui ne s'achève que lors du 5e concile écuménique réuni en 553 à Sainte-Sophie. Pélage Ier, Jean III, Benoît Ier, Pélage II sont plus obscurs. Cependant, au cours de ce 6e siècle, les barbares peu à peu se civilisent, surtout en Italie et en Gaule. Ils adoptent les mœurs romaines. Et s'ils font en croire Gustave Bardi, ils aiment à prendre conseil des anciennes familles de la noblesse. Grégoire le Grand. Le deuxième très grand pape de l'histoire, Grégoire, occupe le siège pontifical en 590. Il meurt en 604. Nous achèverons avec lui ce parcours romain, remettant un autre exposé, celui sur l'Église dans la mouvance des Carolingiens, d'examiner ce que fut Rome au cours des 8e, 9e et 10e siècles. C'est en 754 que le pape Étienne II se placera sous la protection de Pépin le Bref pour que les Francs le gardent des Lombards. Durant les 150 années qui séparent Grégoire le Grand et Étienne II, 27 papes se seront succédés, certains parmi eux, comme Martin Ier, Grégoire II et Grégoire III, ne manquèrent ni de courage ni d'activité, leur stature n'est pas comparable à celle de Grégoire le Grand. Grégoire fut élu pape par acclamation populaire. C'était déjà avant son élection le personnage le plus en vue de Rome. Dans une situation épouvantable, attaque des Lombards, famine, épidémie de peste, rien n'y manquait. Il avait fait face au malheur public avec une autorité et une efficacité extraordinaires. Il appartenait à une famille illustre qui avait compté parmi les siens deux empereurs, deux papes. Félix III était son ascendant direct. Un écrivain de plus grand renom, Boèce. Après de fortes études, il gravit le cursus honorum jusqu'à la responsabilité suprême. À 30 ans, il était préfet de Rome. Quelques années après, il fondait 7 monastères et s'enfermait dans l'un d'eux, Saint-André, sur le Célius. Le Célius est l'une des 7 collines de Rome. Et là, il compromettait définitivement sa santé à force de jeûne et de macération. Le pape Pélage le sortait de là pour en faire un diacre et lui confier d'importantes fonctions. Il fut par exemple apocrisiaire, c'est-à-dire nonce à Constantinople, où il gagna l'estime de l'empereur Maurice au point que celui-ci lui demanda d'être le parrain de son fils aîné. Et il gagna là aussi la chaude amitié de l'ambassadeur du roi Visigoth d'Espagne, Léandre, qui devait être canonisé comme son frère, le très savant Isidore de Séville. À la mort du pape Pélage, on ordonne Grégoire, prêtre et évêque. Quoique malade, Souffrant de maux d'estomac continuels, il déploie une formidable, incroyable activité, non seulement d'évêque, de servus servorum Dei, comme il dit, c'est de lui que nous tenons la formule, mais aussi de consul de Dieu, de défenseur de la cité, de consul Dei. Il lève des armées, élève des murs et des tours de défense, conseille ses généraux, préparant la guerre, mais cherchant obstinément la paix avec ces Lombards si redoutables et qu'il finit par convertir. De son lit, il envoie des missionnaires en Afrique, en Frise, en Allemagne, et a la joie de voir les Visigoths espagnols passer de l'arianisme au catholicisme. Sa correspondance avec les princes et les évêques d'Occident et d'Orient est énorme. Nous avons encore 900 lettres de lui. Et il trouve encore le temps d'écrire des commentaires sur Ézéchiel, sur les livres des rois, sur le Cantique des Cantiques, et quantité d'homélies, les uns et les autres, empreints de la plus haute et de la plus sincère mystique. Et encore, il encourage la liturgie et le chant d'église, au point qu'on a donné son nom, celui de chant grégorien, à celui qu'on entendra jusqu'à nos jours de façon prédominante dans nos cathédrales, nos monastères et nos églises. Oui, une œuvre immense, une personnalité exceptionnelle qui marque sans doute principalement deux choses. Un progrès considérable dans le prestige de la papauté et le service de l'unité de l'Église. Et aussi et peut-être surtout, la conversion et la civilisation des barbares, puisque les Lombards, les Jutes, les Angles, les Saxons, les Germains, les Frisons ont entendu grâce à lui le message du Christ et obéi à sa voix.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 6e épisode, La Gaule chrétienne.